Merci Maëlys et bon week-end. Trois invités et des corps, corps photographiés et corps en deuil avec l'écrivain et artiste Philippe de Jonquière, corps en action et en transmutation avec Françoise de Kerr et Vincent Labaume pour un retour en chair et en os sur l'œuvre de Michel Journiac.
Poésie et ainsi de suite par Manu Farine.
Et c'est jusqu'à 16h, Philippe de Jonquière, Vincent Labaume, Françoise de Kerr, bonjour, bienvenue
bonjour.
À tous les trois.
Bonjour.
Françoise de Kerr, vous êtes maître de conférence à l'Université de Paris 1, des recherches qui ont à faire avec la photographie, presque toujours, le commissariat d'exposition et la médiation. Et vous co-signez aujourd'hui l'exposition Michel Journiac, l'action photographique, à la Maison européenne de la photographie à Paris. Journiac est disparu en 1995, à l'âge de 60 ans. Journiac, l'artiste de la messe pour un corps en 69, hein, performance, rituel au cours duquel il partagea avec le public des tranches de boudin faites de son propre sang. Journiac qui fit du corps dans sa matérialité la plus charnelle et la plus cruelle, sans doute, un outil de révolte et de transgression et le lieu de tous les marquages. Journiac, artiste pour artiste aussi, hein, comme tapis dans un coin de l'histoire de l'art, mention art corporel, et qui fait aujourd'hui l'objet d'une attention toute particulière et toute renouvelée à la MEP, donc saisie par sa dimension photographique, mais aussi glissée ça et là dans l'exposition L'Esprit français à la Maison Rouge à Paris et au Transpalette à Bourges pour une autre rétrospective titrée Rituel de transmutation et contamination au présent, ça méritera explication. Et comme ça tombe bien, Vincent Labaume, artiste, écrivain, complice et commentateur du dit Journiac, vous en êtes l'un des commissaires et y rappelez à juste titre le Journiac poète et lecteur. Photographie, corps meurtri et lecture, c'est aussi votre affaire, Philippe de Jonquière, artiste multipiste, ça c'est votre éditeur qui prévient, c'est-à-dire au moins photographe, écrivain, fondateur il y a 17 ans maintenant du site désordre.net, qui est une sorte de site monde, d'atelier, de journal, de bloc-notes, de labyrinthe, de livre de sable en expansion permanente. Un site tout en images, en sons, en texte, en rature, en brouillon, en film, en hypertexte, duquel s'extrait peut-être votre premier roman, inversement. Titre « Une fuite en Égypte », paru aux éditions Inculte, un roman de deuil, une écriture de la perte, après l'accident de voiture qui coûte la vie à une femme, laissant son compagnon seul avec deux très jeunes enfants. Le texte drôle, triste, fait bloc, mais le narrateur, lui, progresse par petites touches, par petits bouts, avec son difficile apprentissage du présent, ses petits gestes, son quotidien, ses moments de culpabilité, de honte, ses digressions, ses uchronies, ses récits, ses souvenirs, ses tentatives de souvenirs qui sont comme creusées, complétées, retardées, repassées, et puis en creux, la question de la photographie et celle du corps en deuil. On commence presque par la fin. Crescent, John Coltrane, un extrait de la bande son de votre roman, Philippe de Jonquière. C'est la musique, imaginez-vous, que votre héroïne écoute dans sa voiture au moment de l'accident. Un rituel peut-être chez vous, puisqu'on va parler de rituel tout à l'heure à propos de Michel Journiac. Un personnage, ou en l'occurrence un événement, prend forcément corps par la musique qu'il écoute. Pour vous ?
Dans le cas présent, je pense que c'était une amabilité que je voulais avoir vis-à-vis du personnage, en fait, principal, paradoxalement principal, puisque ce personnage est mort, et il est mort dès le début. Que ce soit la dernière chose qu'elle entende, puisque c'était comme si je m'étais fait ce vœu-là, en fait. Qu'est-ce que j'aimerais écouter ? Une sorte de dernière volonté. Et je pense que ça aurait été ça.
Donc un rituel, clairement. Avant d'entrer dans le vif du texte, Philippe de Jonquière, en fin d'ouvrage, vous remerciez, comme il se doit, vos éditeurs lecteurs, et puis vous évoquez à deux reprises le sauvetage du texte, donc un texte sauvé à plusieurs reprises. Qu'est-ce qui avait pu le mettre en danger? De quoi est-ce que ce texte souffrait?
De ces 10 premières pages, qui étaient d'une sauvagerie sans nom, et qui ne pouvaient pas, en aucun cas, agresser comme elles étaient agressives, le lecteur ou la lectrice. Et donc, c'était une sorte de mal original que je n'ai pas su corriger par moi-même. Et fort heureusement, j'ai une amie à la fois proche et sûre qui m'a fait cette suggestion de supprimer les 10 premières pages.
Supprimer, ça veut dire que le problème de la sauvagerie, c'est que c'était l'entame hein, du roman, ou c'était la sauvagerie tout court?
C'était la sauvagerie tout court, qui était vraiment très 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 dure, et qui était d'une très grande violence, et qui était un immense cri de douleur. Et donc, ça ne laissait pas ensuite la possibilité au texte d'exprimer d'autres de ses facettes, notamment la douceur ou l'ironie. Donc il était... C'est comme si j'avais crié très très fort et qu'ensuite on n'aurait plus pu m'entendre.
Qu'est-ce que vous avez fait de ce texte, de ce cri?
Il en existe une version unique qui se trouve être conservée dans un chaudron en céramique qui a été réalisé par mon amie Isa Borda, qui est une artiste assez exceptionnelle. Et voilà, c'est là qu'il est.
Alors, on parlait d'entame, on pourrait aussi parler de point final pour ce qui concerne ce texte, ce roman, hein, Une fuite en Égypte, puisque le texte opte pour une forme très particulière, c'est-à-dire c'est un bloc, véritablement, sans retour ligne, sans paragraphe, sans chapitre, et pas d'autres signes de ponctuation que le point-virgule. À l'exception du point final, qui écrit d'ailleurs quasiment toutes lettres, parce que c'est un point-virgule qui a à faire avec la musique, qui aurait à faire, je ne sais pas, j'imagine, on peut évidemment penser à des tas d'écrivains qui ont fait grand usage du point-virgule, mais c'est le refus du point, c'est le refus de la virgule.
C'est ni l'un ni l'autre. En fait, je crois que le premier écrivain qui m'a marqué... au fer rouge, et j'étais relative, enfin, je devais avoir 24-25 ans, je me suis mis à la lecture très très tard. C'était Malcolm Lowry et c'était Sous le volcan. Et dans le personnage du consul, il y a l'existence simultanée de trois pensées, dont une qui n'est pas spécialement sobre, puisqu'elle est sous mescal. Et on a l'impression que ces trois pensées sont juste permanentes et qu'elles sont contenues dans toutes les phrases, que chaque phrase contient à la fois trois, voire quatre pensées polyphoniques. Et c'est un peu comme ça que m'est venu le début de ce texte, qui était donc au départ très violent. Mais après, le pli était pris, il n'y avait plus vraiment d'espace pour s'arrêter, en quelque sorte. Et donc, c'est assez naturellement qu'en refusant le point et tout en refusant aussi la virgule, je me suis décidé pour le point-virgule. Et puis, ça a fonctionné et j'ai laissé ça comme ça. Enfin, quand ça marche, il ne faut pas le réparer, quoi.
Ça veut dire que ce point-virgule vous a aidé à écrire ?
Ça me permettait effectivement d'exprimer le désordre et la digression de cette expérience de la vie dont on parle peu, c'est celle du deuil, et qui est une expérience très difficile dans le sens où ça sème le désordre chez soi, ça nous ramène à des choses qui sont très antérieures, ça nous barre un peu la route, puis ça l'ouvre à nouveau, enfin il y a tout un chemin très tortueux, très labyrinthique, et beaucoup de choses sont d'égale valeur. Aussi bien des choses qui sont a priori peu importantes, mais qui peuvent être porteuses de très grandes significations. Et donc cette absence de hiérarchie trouvait une expression, à mes yeux, naturelle dans l'utilisation du point-virgule.
Alors cette affaire de ponctuation, de point-virgule, hein, qui suspend, mais qui en même temps refuse la coupe, hein, rend évidemment l'idée même de la lecture et de l'extrait difficile. Et pour autant, est-ce que vous voulez bien, Philippe de Jonquière, nous faire lecture?
Alors, donc, un extrait, donc une phrase.
Faut trancher.
Alors, j'ai ramassé le tirage par terre. C'était une photographie de l'accident. Une image d'elle dans la voiture, c'était une très bonne photographie. Au flash, donc très piquée. Une profondeur de champ confortable, du 28 mm fermé à 11 ou 16. Tout était net et parfaitement piqué. Je me suis même dit que l'objectif ne devait pas être un cul de bouteille, parce que, pour du 24-36, c'était remarquablement défini. Le flash direct accentuant la définition, l'échelle de gris était parfaitement équilibrée, graduelle. Le grain entamait à peine sa réticulation. Mais une fois encore, pour du 24-36, sur un tirage qui devait faire 24-30, à fond perdu, recadré, donc c'était très honorable. D'ailleurs, je me suis dit qu'ils avaient dû développer le film dans la soupe habituelle, celle qu'on me faisait doser pendant mon service militaire au service d'information et de relations publiques des armées, le CIRPA. 10 minutes et 30 secondes dans du D76 à 1:3, à 20 degrés. Agitation lente, une fois par minute. Avec cela, votre échelle de gris est constante, elle n'évolue pas. Quelle que soit la précision de l'exposition. Au tirage, derrière, tout sort sans effort. Le coup de flash avait été bien mesuré. Un petit tiers de diaphragme en plus pour déboucher les premières ombres. Rien à redire. Toutes les formes étaient cernées, à droite, d'une main sombre portée. Le flash était donc à gauche de l'objectif. À mon avis, trop près du boîtier. Mais ça, c'est davantage une question d'appréciation personnelle. Pour ma part, j'aime bien que les ombres portées au flash, si elles sont là, si on ne peut pas les éviter, j'aime autant donc qu'elles soient plus larges. Et donc je décale souvent mon flash, autant que la barrette de ce dernier me le permet. À part ça, la photographie était de bonne qualité. Le tirage neutre et pas trop contrasté. C'était du bon boulot, rien à redire. N'était-ce les ombres portées, trop minces, mais vraiment c'est une affaire de goût. Le sujet était lisible et sans détour, centré. De ce fait, aucun effet de composition n'avait présidé à ce cadrage. C'était là bien le seul reproche qu'on pouvait objectivement faire à cette photographie. Cette photographie d'elle sans vie, au volant de notre voiture accidentée. On voit bien comment mes descriptions de détails à propos de la photographie sont plus précises que celles qui se penchent au contraire sur des questions pas moins techniques de mécanique. Mais elle était là, dans la voiture. On ne reconnaissait plus la voiture. Tout le capot avait été enfoncé, le moteur avait été repoussé jusqu'au-delà de l'emplacement normal du tableau de bord, qui désormais siégeait sur ses genoux. Je ne sais pas si je me fais très bien comprendre. Elle était prisonnière de la voiture, cernée de toutes parts par les déformations de l'habitacle. La portière de son côté avait été arrachée, elle était comme assise. Le toit de la voiture avait été froissé et abîmé jusqu'à l'irréparable, qui lui masquait entièrement le visage, la recouvrait. Sa main gauche pendait, inerte, sur son bras on reconnaissait parfaitement sa cicatrice. Par terre, un filet de sang coulait de son avant-bras, mais cet écoulement ne passait pas sur la cicatrice à proprement parler, ça saignait dans l'intérieur du bras. La photographie était en noir et blanc, le sang était noir comme du goudron, elle ressemblait à ces photographies de presse à scandale dont Andy Warhol s'était servi pour ses peintures d'accidents de voiture et d'autres morts soudaines.
Merci. Philippe de Jonquière, à quel moment est-ce que vous avez écrit ce texte-là, ce morceau de texte-là? Alors évidemment, là, on l'a coupé dans le flux, mais il me semble qu'il se tient sorti du flux.
En fait, j'ai écrit ce texte d'une façon très linéaire. Et je procède plus trop comme ça, mais à cette époque-là, je procédais comme ça. Et il devait faire, je sais pas, une trentaine ou une quarantaine de pages. Je l'ai imprimé, j'ai retiré des choses, j'en ai rajouté, j'ai raturé, j'ai rajouté énormément de choses dans la marge. J'ai retranscrit tout ça, je l'ai réimprimé, et j'ai recommencé, et j'ai fait l'opération 12 fois.
Et vous rappelez, je suis photographe, Philippe de Jonquière, à plusieurs reprises dans le texte, un bout de phrase donc qui revient, qui le ponctue, et la photographie prend une place assez centrale dans le récit. Photographie du personnage principal, hein, ce qui reste ou restera d'une présence dans un cadre sur la table de nuit, j'imagine, des enfants. Photographie qui retarde et en même temps redouble la disparition du corps. Photographie érotique, qui donne corps, d'une certaine façon, au veuf. Photographie de l'accident, donc, par la gendarmerie, que vous venez de nous lire, et que vous reliez évidemment à la série des accidents d'Andy Warhol. Au fond, quelle idée de la photographie pourrait traverser ou recouvrir ce roman?
C'est très en référence avec la chambre claire de Roland Barthes, c'est-à-dire que, je veux dire, une photographie est une photographie, enfin tiens, un instant du réel qui a son avant, qui a son après. Les trois peuvent subsister par imagination sur cette image. Avec la photographie, on ne s'arrange pas avec des sujets très légers, nécessairement. Il y a quelque chose qui, effectivement, est de l'ordre de maintenir une présence qui peut être celle d'une personne morte. C'est la fameuse photographie du condamné à mort de Stuart Alexander. on la regarde aujourd'hui, il est mort depuis 150 ans, et pourtant on regarde ce jeune homme qui va bientôt mourir, il est à la fois vivant et mort sur la photo. Je pense qu'effectivement, la photographie a une capacité quasi surnaturelle de nous donner à voir ce qui n'a pas forcément trait avec la réalité, justement.
Françoise Decker,
c'était assez, d'abord très émouvant, j'ai trouvé, et puis il y avait cette espèce à la fois d'aspect un peu technique, et puis le fait de revenir toujours sur cette photo, on comprenait bien que c'était le sujet, l'enjeu. On voit exactement, en fait, quand on vous entend, on voit complètement cette femme dans sa voiture, brisée, et en même temps très belle, qui, avec ce bras, la cicatrice, le sang, et je trouve que c'est aussi le propre de la photographie, comme vous l'avez dit, de montrer des choses qu'on ne voit pas finalement aussi bien que dans une photographie parfois, et de nous faire aussi sur un détail, on retrouve plein de choses dans une photographie. Je trouve que c'est formidable parce qu'on peut la regarder à plein d'instants différents et on verra pas les mêmes choses, je pense aussi.
C'est ce qui se passe dans le roman, c'est-à-dire que le narrateur voudrait absolument récupérer la photo, le gendarme ne veut pas parce que c'est une pièce du dossier, et le narrateur explique au gendarme que la photographie c'est pas quelque chose de fixe, et que là il l'a vue une première fois, mais déjà en lui reprenant il la voit une deuxième fois, et il ne remarque pas les mêmes choses que la première fois.
Il tente même la photocopie, mais ça marche pas non plus.
Oui, il tente d'obtenir une photocopie de cette image pour qu'elle ne devienne pas justement une image fantôme, qu'il puisse sans arrêt revenir justement à la photographie.
Cette série de Warhol, à laquelle vous faites allusion, Philippe de Jonquière, on la retrouve sur votre site désordre.net, et vous engagez d'ailleurs le lecteur, avant même que le roman ne commence, à s'accompagner des ressources disponibles en ligne. Alors quand on va se promener sur le site, en tout cas sur la page dédiée au roman, on va trouver notamment la couverture du livre, des fragments de texte, des images, des photos, une route de campagne qui défile bien droit, des extraits sonores, dont le Coltrane qu'on vient d'entendre, des liens hypertextes qui viennent comme enfler ou gonfler, disons, le corps du texte. Vous dites d'ailleurs ne pas le faire aurait été me désavouer. Une fois sur le site, est-ce que nous voilà toujours lecteurs ?
Je pense que je donne à voir les coulisses du texte aussi, beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a quelques extraits de journal qui disent où j'en suis de la rédaction du texte. Il y a quelques dialogues avec mon éditeur, notamment sur la fabrication de la couverture. C'est de la matière qui est assez vivante. Après, effectivement, je trouvais qu'il était intéressant d'en faire un objet hyper textuel, mais surtout hyper médiatique, c'est-à-dire qu'il y ait des ressources qui soient pas uniquement des ressources textuelles. Par exemple, il est question du hasard de Krzysztof Kieslowski, et je me suis dit que
dans le texte, que
je pouvais donner un extrait justement donc de ce film, et que on pouvait regarder ce film tout en lisant le passage où il est effectivement question de ce film. Pareillement avec la musique, finalement, il y a 3 ou 4 extraits. C'est aussi ma façon de faire, c'est-à-dire que ça fait 17 ans que je tente des choses en ligne, donc dans ce site désordre.net. Il y a des effets de programmation, il y a des effets de désordre accumulé, de labyrinthe. Oui, ça aurait été une faute de ne pas réserver dans le site un espace pour ce livre qui, comme vous le disiez en introduction, est partiellement né, effectivement, du désordre du site aussi.
Alors ce site désordre.net, vous l'avez dit, il est né il y a 17 ans. Maintenant, il a connu diverses formes, étapes, enjeux forcément, des rebondissements, peut-être même quelques lassitudes parfois, on va y revenir, peut-être même une fin. D'abord conçu comme un portfolio, celui du photographe que vous étiez avant que donc ce site ne devienne une sorte de monde ou d'atelier ou de journal, donc avec ses centaines de milliers de pages, ses textes, ses brouillons de textes, ses ratures, ses images en mouvement, ses photos. Qu'est-ce que ce terme-là de désordre recouvre, puisqu'il s'est imposé d'emblée? Autrement dit, qu'est-ce qu'il disait à l'époque, il y a 17 ans, et qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui?
Deux choses assez différentes. C'est-à-dire qu'au départ, quand, comme vous le disiez, je voulais que le site soit une sorte de portfolio de mon travail de photographe. Et en bon ancien étudiant des arts déco, je me disais, il faut qu'il y ait une idée qui porte. Et je me suis dit, je vais faire une photo du désordre de mon atelier et chaque petite partie de la photo sera cliquable, ce qui permettra d'accéder au contenu d'un tiroir, d'une boîte, à l'envers du décor, à l'intérieur de l'écran. Et cette idée, finalement assez minime au départ, a engendré donc un site qui effectivement a une épaisseur considérable. Il y a 300 000 fichiers pour constituer ce site.
Parfaitement rangé, par ailleurs.
Alors, effectivement, les coulisses sont mortellement ennuyeuses, c'est-à-dire que tout est parfaitement rangé pour donner une impression notamment programmatique du désordre, effectivement. Et ensuite, c'est devenu, la meilleure façon de décrire toute expérience humaine, c'est-à-dire toute chose un peu cafouilleuse par ailleurs, un peu comme le dit Lacan, c'est-à-dire être psychanalyste, c'est se faire une idée assez juste de l'expérience cafouilleuse de l'existence. Citation très approximative.
Ce que pose désordre au fond Philippe de Jonquière, et avec lui l'hypertexte, c'est aussi le principe de l'association d'idées, d'une certaine façon. Est-ce que c'est davantage une façon de travailler ou c'est une façon de penser?
C'est les deux. On parlait de Lacan, de libre association. C'est effectivement... les deux sont liés irrémédiablement, presque. C'est aussi une façon de tenir à distance le côté morne de l'existence par ailleurs, la tyrannie de la réalité, pour utiliser le titre de Mona Chollet.
Et donc aujourd'hui, parce que vous ne m'avez pas tout à fait répondu, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que ce désordre?
L'expérience du désordre, j'y ai mis fin il y a un petit peu plus d'un mois. Alors c'est une fin qui n'est pas heurtée, c'est une fin dont on pouvait se douter aussi. Je pense que j'ai un peu atteint les limites de l'expérience, ça fait quand même 17 ans. C'est rare qu'on travaille pendant 17 ans sur un même objet. Un cinéaste m'a dit un jour, mais tu devrais t'arrêter et en faire un autre. Alors je sais pas, un autre site, j'en sais rien. En tout cas, pas de cette taille-là.
Ça veut dire que c'est un objet, que finalement, il a fini par avoir des bords.
Alors il a des bords sans en avoir. Ce sont des bords extrêmement lointains. C'est-à-dire qu'il y a quelques calculs de combinatoires qui pourraient vous dire que ces bords tutoient l'infini, littéralement. Notamment le nombre de combinaisons possibles sur la page d'accueil. C'est un chiffre monumental qui est... de l'ordre du nombre de molécules dans l'univers connu, que l'on peut ranger dans l'univers connu. Les chiffres combinatoires, c'est juste très très grand. Donc effectivement, ce n'est pas stricto sensu l'infini, mais c'est pas loin.
Alors d'une certaine façon, c'est aussi une forme d'autoportrait qui se joue là. Finalement, peut-être aussi une forme d'autoportrait de celui qui vient y lire ou de celui qui vient y naviguer, puisqu'il est actif et puis qui va cliquer selon que les liens lui semblent familiers ou aventureux. Ça dépend du tempérament, j'imagine, de celui qui vient s'y promener. Et à propos d'autoportrait, peut-être, vous avez demandé à entendre un son. Et c'est celui-ci. Summertime, Duke Ellington, 1963, sur un piano pourri, m'avez-vous dit en demandant l'archive. Mm-hmm. C'est précisément ce que vous vouliez entendre.
Ouais, le faire aussi entendre à quelqu'un. Et en fait, j'aime énormément ce morceau parce que c'est un vieux Duke Ellington et qui n'a plus rien à prouver à personne et qui fait le contraire de tout ce qu'il a fait pendant toute son existence, c'est-à-dire des arrangements extrêmement bien construits, bien conçus, admirablement joués. Et là, il prend le standard de tous les standards, enfin « Summertime », et il le triture dans tous les sens, il le retourne, il le casse, il le... Et du coup, il est en pleine invention, et il y a des passages qui foirent, et il y en a d'autres qui sont lumineux. Et en fait, en règle générale, à la fois dans la vie et à la fois dans mon travail ou dans le travail des autres, ce qui m'intéresse, c'est moins ce qui fonctionne que ce qui rate et la façon dont on compose avec ce qui rate.
Et la façon dont on s'entête aussi, qui est un terme que vous utilisez.
Oui, aussi, ouais, de faire preuve de pignâtreté, de voilà, et les erreurs, notamment en photographie, sont souvent porteuses de vraies découvertes. Un bon photographe découvre la pénicilline plusieurs fois par an.
La question du brouillon aussi est assez présente d'ailleurs dans oui. Désordre.net, et je me demandais si en photographie c'était une notion valable hein, que celle du brouillon.
Je ne sais pas si on fait autre chose que des brouillons en photographie. En général, je pense que quand on fait plus que brouillon, enfin une sorte de tirage final, en quelque sorte, on fige une expérience qui cesse presque d'être vivante.
Peut-être une dernière question sur l'idée de ces hypertextes, qui sont aussi des façons donc, d'ouvrir des espaces et donc du temps. C'est du temps supplémentaire aussi hein, que vous ne cessez d'ouvrir. Et en disant ça, je pense à la façon dont vous avez dans le roman retardé le point final, retardé le récit de l'accident, qui arrive très très tard, la façon que vous avez digressé aussi, et puis le moment où, dans le roman, vous faites l'éloge du ralentissement dans l'écriture, dans la mise en scène, dans la photographie, en évoquant notamment une scène qui prend tout son temps, hein, qui est celle du meurtre de la logeuse dans Crime et Châtiment de Dostoïevski. Le projet de désordre, au fond, est-ce que ça a à faire avec ça aussi ?
Un peu, c'est, je dirais, davantage une sorte d'épuisement également.
Vous avez commencé par Pérec, d'ailleurs, je crois, le premier texte que vous avez mis. C'était
c'est
une tentative d'épuisement.
Ouais, c'est l'une des toutes premières, des toutes premières pages du désordre, qui était donc l'intégralité du texte tentative d'épuisement d'un lieu parisien de Pérec, et que j'ai nourri d'autant de liens hypertextes vers des sites internet qui maintenant n'existent plus tous, mais qui ont existé. Il y a encore des ressources qui fonctionnent. Et ça permettait d'avoir, une sorte de tentative d'épuisement,
Sur mon cou, sans armure et sans haine, mon cou. Que ma main plus légère et grave qu'une veuve. Effleure sous mon col, sans que ton cœur s'émeuve. Laisse tes dents poser leur sourire de loup. Oh viens mon beau soleil, oh viens ma nuit d'Espagne. Arrive dans mes yeux qui seront morts demain. Arrive, ouvre ma porte. Apporte-moi ta main. Mène-moi loin d'ici, battre notre campagne. Le ciel peut s'éveiller, les étoiles fleurir. Ni les fleurs soupirer, et des prés l'herbe noire. Accueillir la rosée, où le matin va boire. Le clocher peut sonner, moi seul je vais mourir. Oh viens mon ciel de rose, ou ma corbeille blonde. Visite dans sa nuit, ton condamné à mort. Arrache-toi la chair, tue, escalade mort. mais viens, pose ta joue contre ma tête ronde. Nous n'avions pas fini de nous parler d'amour. Nous n'avions pas fini de fumer nos gitanes. On peut se demander pourquoi les cours condamnent un assassin si beau qu'il fait pâlir le jour. Amour, vient sur ma bouche. Amour, ouvre tes portes. Traverse les couloirs, descends, marche léger. Vole dans l'escalier, plus souple qu'un berger. Plus soutenu par l'air qu'un vol de feuilles mortes. Oh, traverse les murs, s'il le faut, marche bord des toits. Des océans, couvre-toi de lumière. Use de la menace, use de la prière. Et viens, ô ma frégate, une heure avant ma mort.
Étienne Dao qui met en voix et en musique un extrait du poème Le condamné à mort de Jean Genet. On commence par la fin. Non, on commence peut-être pas par la fin, parce que pendant qu'on écoutait la chanson, Vincent Labeaume, vous...
Je fredonnais.
Vous fredonniez, vous pestiez un peu, vous fredonniez, et vous disiez de Journiac qu'au fond, c'était le seul artiste pop en France.
Non, je n'ai pas dit ça.
Si, vous l'avez dit.
C'est dans une exclamation, comme ça, poussée par l'émotion d'entendre Le condamné à mort. Mais c'est un de nos plus grands artistes pop, ça c'est indéniable. C'est vrai que la messe, ça ne fait pas très pop quand on dit ça. Donner une messe avec son sang dedans, c'est pas très pop. Mais la guillotine, mais le travesti, mais le voyeur, mais un pop, c'est quelqu'un qui met en lumière des conditions d'existence, qui met en lumière des affects sociaux qui n'ont pas encore de représentation dominante, disons, de représentation classifiée artiste. Donc c'est un grand artiste pop. Et l'exposition que présente notamment la MEP, que Françoise Docker a co-commissée, montre bien l'impact pop des images, de l'action photographique telle que Journiac l'entendait.
Alors peut-être juste un petit mot quand même sur Genet, qu'on vient d'entendre, parce que c'était le choix de Françoise Docker. Alors on pense évidemment à la guillotine de Journiac, qui est d'ailleurs visible pour quelques jours encore à la Maison Rouge à Paris, hein, dans le cadre de l'exposition L'Esprit français. On pense aux œuvres tardives, de la fin des années 80, de Journiac, hein, qui sont icônes du temps présent et qui ferment l'exposition de la MEP, dont vous êtes la commissaire, Françoise Docker. Icônes comme Brando, comme Genet, comme Wilde, comme Michael Jackson, comme les jeunes gens prélevés dans des revues porno gays, qui sont cerclés d'or et du sang de l'artiste, hein, en l'occurrence de Michel Journiac. Qu'est-ce que Journiac pourrait devoir, au fond, à Genet, Françoise Docker?
Je crois que Journiac, il est dans, d'abord, il a, c'était quand même quelqu'un qui adorait Genet, je crois, et puis il est dans la coulée de Genet. Enfin, c'est le même esprit de révolte, le même esprit, c'est ça qui est très important pour moi, c'est-à-dire que pourquoi Journiac aujourd'hui est tellement présent dans la société? Parce que finalement, d'abord, son œuvre a absolument pas vieilli, qu'il a dénoncé des poncifs qui malheureusement sont encore là, et bien là, hein, sur la femme, sur le travesti, sur... Et que, comme tout grand artiste, et comme le disait Vincent, c'est quelqu'un qui n'a pas hésité à se mettre en jeu lui-même, comme l'a fait Genet, hein, pour, dans ses œuvres, dans ses écrits. Il faut se rappeler, on est en 70, hein. C'est quand même très difficile quand on voit 24 heures de la vie d'une femme ordinaire, qui sont cette série de 31 photos qui sont présentées à la MEP, mais il y en avait un peu plus, ou la série Fantasme.
C'est... On va peut-être rappeler ce que c'est que cette série, 24 heures de la vie d'une femme
c'est une
ordinaire.
Série où Michel Journiac, dont un des principes dans la photographie, dans la vie, dans l'action, dans son travail, se travestit en femme, en jeune femme. Et donc, il y a toutes les étapes d'une journée d'une femme ordinaire. Alors, elle travaille, hein, quand même. Elle n'est pas complètement aliénée, mais enfin, avant de partir travailler, elle prépare à manger à son petit homme. Elle travaille, elle pointe hein, à l'époque, donc on voit quand même aussi la difficulté de ces époques-là qui n'ont pas tellement changé aujourd'hui. Et puis à la fin, elle fait les courses, elle fait le repas de son mari, elle le couche. Et puis alors, il y a l'autre partie des photographies qui s'appelle fantasme, parce qu'évidemment, cette femme, elle a des fantasmes aussi, comme tout le monde, et donc Journiac toujours travestie en cette femme, je pense de 30-35 ans, blonde, avec la perruque qu'on retrouve hein, chez Michel, qui est un emblème de son travail, je pense. Alors là, elle se laisse aller, elle a des fantasmes. Elle a des fantasmes en Harley Davidson, elle a des fantasmes de lesbienne.
Un fantasme d'enlèvement en Harley Davidson.
Enlèvement, absolument. Et ces séries, je trouve, sont tout à fait contemporaines et reprennent bien l'idée de Journiac de montrer finalement tous ces petits, ces petites choses qui font le monde de la petite bourgeoisie et qui sont finalement des carcans. Et moi, je pense que Journiac, toute sa vie, a lutté contre ça. Il était pris aussi entre deux feux, puisqu'il avait aussi eu l'idée d'être séminariste à un moment donné. Bon, donc,
mais il l'a été.
Oui, enfin, il est allé au séminaire.
Il a fait le grand séminaire, mais il s'est arrêté avant la prêtrise.
Voilà, il s'est arrêté avant la prêtrise. Donc, tout ça fait que, moi, je trouve que l'œuvre de Journiac, on est vraiment dans, à la fois dans une révolte, une symbolique très forte. Et puis, moi, ce que je trouve formidable chez Journiac, c'est que c'est toujours assez ironique, finalement. C'était quelqu'un qui était un performeur, un meneur de bande, je pense. Et Vincent, moi, j'ai pas eu la
chance. Faisait partie de la
bande, alors. Tu as écrit ça dans ton texte qui accompagne l'édition de la MEP. Je suis pas vraiment sûr que Journiac ait été un chef de bande, comme tu le dis.
Je sais pas, mais je l'ai pas connu. Alors, tu vas nous dire.
Un grand frère, peut-être. Mmh. Voilà. C'est une fraternité en tout cas, d'un compagnonnage des amis sans paternité. C'était ça qui était important avec lui. C'est ça qui était fondamental. Parce que c'est un peu cette messe aussi, à laquelle on revient de 69. C'est une ouverture à une espèce de communauté sans le père. Sans les pères, en tout cas. Et donc une communauté fraternelle. Mais
alors, pardon, excusez-moi de vous couper parce que
en
fait là
on se perd un peu.
Alors on ne se perd pas forcément. Il suffit de retrouver le droit chemin. Mais donc voilà. On est parti sur une série qui était donc 24 heures de la vie d'une femme dans son quotidien. Là vous évoquez la messe. Alors là on est en 69.
Ça se poche. Hein. Ça se vit.
Ouais. On est en 69 et qui est probablement effectivement l'action, la performance la plus marquante et la plus connue de Journiac. Hein, donc en galerie, dans laquelle il a repris le rituel de la messe. C'était à la galerie Tanton.
Qu'il a célébré avec sa licence de théologien en latin, parce que ça se faisait en latin à l'époque. Et donc il a effectivement célébré une véritable messe. Donc c'est un détour. Si on veut, parce qu'on est dans ce mot concept inventé par les Situs quelques années auparavant. Et en même temps, il va plus loin que simplement détourner un office, puisqu'il intègre son propre corps, il s'est fait une transfusion sanguine et il a préparé du boudin, il a confectionné avec sa recette de boudin au sang humain, des sortes d'hosties qu'il va distribuer comme communion, en guise d'hostie aux participants présents de la messe. Donc c'est une espèce de, évidemment, de transgression, mais qui renvoie à une littéralité, évidemment, de la messe, c'est-à-dire il se met littéralement à la place du Christ dans une célébration de l'autre et non pas une auto-célébration de soi, ce qui est assez curieux pour un artiste débutant. En tout cas, c'était un coup d'éclat qui, aujourd'hui encore, est interrogé. S'interroge encore.
Vous écoutez France Culture, Poésie et ainsi de suite, par Manu Farine.
Philippe de Jonquière, qu'est-ce qu'il est pour vous, alors, justement? Parce que vous, pour le coup, ça n'est pas forcément le Journiac de La Messe pour un corps.
Non, alors de fait, pour moi, Michel Journiac, c'était une figure Quand j'étais étudiant aux Arts Déco, il y avait effectivement une ouverture qui était très singulière dans le travail de Michel Journiac, parce que la photographie à l'époque, donc j'étais aux Arts Déco au milieu des années 80, la photographie à l'époque, c'était en France en tout cas, c'était vraiment une affaire de grisaille, de noir et blanc, de grands maîtres. Et donc Michel Journiac, le travail de Michel Journiac avait des vertus tout à fait rafraîchissantes par rapport à tout ça. Et c'est en fait un peu ce type de photographie, de travail que j'avais envie de côtoyer quand je suis parti aux États-Unis et où là, j'ai eu affaire à une photographie qui me semble bien plus libre que celle qui était en vogue en France dans ces années-là, notamment avec Cindy Sherman, donc qui est quand même une sorte de sœur de Michel Journiac.
Qui arrive un peu après, mais il faut le reconnaître.
Oui.
Il faut reconnaître qu'il a précédé...
J'avais pas de tels repères, enfin des repères
non, bien sûr.
Aussi précis que ça.
C'est dans les années 70. Et je
remarquais aussi dans les derniers travaux de Michel Journiac sur les détournements de photographies, notamment pornographiques, mais pas seulement, à la peinture et notamment à la feuille d'or. Et ça me fait énormément penser à ce que j'ai côtoyé aussi aux États-Unis en étant l'assistant de Robert Heineken. Et donc là, il y avait vraiment... Donc oui, je trouve merveilleux qu'on puisse véritablement découvrir le travail de Michel Journiac aujourd'hui, certes avec du retard, mais mieux vaut tard que jamais.
Puisque vous parliez de Cindy Sherman, je voudrais revenir peut-être sur cette question du travestissement, hein, qui est évidemment est tout à fait centrale chez Journiac. Qu'est-ce qui en ferait véritablement une stratégie, peut-être... Vincent Labaume, qu'est-ce que le travestissement recouvre? Qu'est-ce qu'il fait dérailler, au fond?
Pour Journiac, c'est pas s'inventer une autre vie, une fiction. C'est vraiment rester au cœur de ce travestissement de soi qu'est l'individu. Et donc, c'est une critique générale qui est posée par le travesti à la séparation des genres, à une certaine fossilisation des rapports sociaux. Donc, le travesti amène le trouble et fait éclater cette biodiversité simpliste. Il faut entendre le travestissement dans le sens où Journiac est le premier travesti de son œuvre. C'est-à-dire, il a même fait une exposition, c'était avec Le piège pour un voyeur, c'est une série de masques qu'il a réalisé de lui, qui sont des masques qui étaient en pile à l'entrée de l'exposition, donc chacun pouvait prendre le masque de l'artiste pour regarder à travers ses yeux l'exposition de Journiac, mais il pouvait choisir plusieurs masques différents. On avait Journiac en Journiac, on avait Journiac en voyou, on avait Journiac en femme, on avait Journiac en cadavre, on avait Journiac en ceci, en cela. Donc il laissait toujours la possibilité d'une profusion de regards sur ce que lui, avec le travestissement, établissait comme un véritable fait. Un fait plastique. Ça pouvait paraître simplement un jeu avec la marge et une certaine, dans le sillage de 68, une certaine apologie des marginalités. Je crois que c'est plus fondamental pour Journiac. Nous sommes effectivement des travestis de nous-mêmes. Et c'est ce que démontre de manière absolument exemplaire l'hommage à Freud qu'il a réalisé d'abord comme envoi postal en 72. Et qui montre, donc c'est un simple tract, 21-29-7, plié en deux, qui montre sur la partie gauche, il y a quatre images, un portrait de son père, portrait de type, je dirais, photomaton, un portrait de sa mère, et à côté, un portrait de Michel Journiac travesti en son père, et en dessous, un portrait de Michel Journiac travesti en sa mère. Mais ce qui est fort dans cet envoi postal, qui pourrait être simplement d'ironie familiale, c'est que les parents eux-mêmes ont participé d'abord à cet envoi et figurent avec cette légende Robert Journiac travesti en Robert Journiac et René Journiac travesti en René Journiac. Donc c'est une association assez stupéfiante, une volonté d'affichage familial de désordre dans les familles. On est presque, c'est le mot de Lautréamont, je veux s'aimer le désordre dans les familles. Il y a quelque chose de à la fois d'un constat d'évidence et d'un désordre extraordinaire qui, encore aujourd'hui, n'est pas. Moi, je l'ai remarqué dans l'exposition, puisque nous en avons un tirage sur toile de cette œuvre. Les gens sont toujours extrêmement frappés, qui connaissent pas l'œuvre de Journiac, par cet affichage familial aussi provocateur, aussi revendicatif et aussi libre d'une certaine manière.
Provocateur au point de faire une série par la suite, hein, qui sera une série de l'inceste, qui
voilà,
s'appelle L'Inceste, qui est une série de 9 photomontages où il va, d'une certaine façon, montrer toutes les combinaisons possibles. De l'inceste à partir de son père, sa mère, lui travesti en son père, lui travesti en sa mère, lui travesti en lui-même.
Fils, fille, voyeur, amant du père, fils, voyeur, amant de la mère. Enfin, ça, c'est une espèce de combinatoire structuraliste qui est assez drôle.
Et qui met par terre aussi l'idée
de la triangulation
freudienne
et lacanienne, même, ça, c'est sûr. C'est un grand lecteur, en tout cas, de Freud et Lacan à cette époque-là, et pas seulement de Gilles Deleuze aussi, de sa chère Mazoc, etc. Et c'est quelqu'un qui pense toutes ses œuvres et toutes ses expositions, toutes ses créations, toutes ses actions corporelles comme un intellectuel. C'est-à-dire, il cherche à intervenir dans le débat public des images, le débat public des formes et des corps, des désirs, des répressions. Donc, il a vraiment il invente quelque chose qui est un art intellectuel. Alors évidemment, on est le pays de Zola, c'est pas pour rien, et de Sartre à l'époque, mais franchement, c'est une invention assez rare. C'est pas un art simplement engagé, c'est vraiment un art qui se pose d'emblée sur le terrain d'une contestation symbolique et qui est celle de l'art, mais qui se veut au même titre que quand Foucault écrit « Surveiller et punir », enfin, etc.
Et la question donc du nom, ben, on va l'écouter justement, Michel Journiac, dans l'une de ses performances.
Au commencement était le mot, et du mot vint l'exclusion. L'histoire a commencé d'une expulsion pareille. Nous sommes les enfants de ceux qui ont cédé la place. Nous sommes les enfants d'histoire de ceux qui ont cédé le pas. Nous sommes tous des enfants d'émigrés. Toute la culture est ce tiers exclu. Et le mot se fit corps. Corps lieu de tous les marquages, de toutes les blessures, de toutes les traces. Dans ta chair s'inscrivent les tortures, les interdits des classes sociales, les violences des pouvoirs dispersés mais jamais abolis. Aujourd'hui, seuls les exclus créent, car c'est leur corps qui parle, énonce le refus. Corps de refus, corps vendu non acheté, corps condamné, corps prostitué, corps torturé, corps outil de travail, corps pédé, corps drogué, corps alcoolique, corps malade. Ici et maintenant, la parole du corps est corps. Son insurrection de viande consciente vers le sacré, vers l'autre, n'est peut-être simplement de la fulgurance ontologique de la caresse.
La voix de Michel Journiac, donc une performance de 83. On est à Beaubourg, ça s'appelle « Action de corps exclu ». C'est une action durant laquelle il va se marquer le bras d'un triangle avec un fer rouge, que lui va concevoir au fond, alors bien sûr comme une marque d'exclusion, mais aussi comme une marque de rencontre.
Oui, je crois ce que disait Vincent.
Françoise Docker.
Je suis d'accord avec lui. Moi, j'ai mis chef de bande, mais je pense que Michel, c'était aussi quelqu'un qui avait cette espèce de fulgurance, de faire participer les gens. Il y avait vraiment quelque chose d'extraordinaire. Il faut rappeler qu'il a été pendant 20 ans enseignant à l'université de Paris 1. Et depuis que j'ai fait cette expo, plein de gens, mais de tous milieux, me disent « Mais tu sais, j'ai été à un cours de Journiac, c'était extraordinaire. » Et les gens s'en souviennent. Donc, on le voit aussi dans ce texte où il revendique La défense des exclus ou sa position d'exclus, etc., etc. Je pense que tout ça est très important et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui Journiac est tellement contemporain. Je veux dire, il n'a pas vieilli.
Pardon, la prise de parole a un petit peu vieilli malgré tout quand on l'entend.
Oui, on entend quand même quelque chose d'assez théâtralisé, une voix. Bon, effectivement, c'est une période difficile pour lui. C'est-à-dire que Journiac a connu une période extrêmement brillante. Et il a été d'ailleurs à un moment. Il participe à des émissions, il est invité à des émissions de télé qui à l'époque sont pas très ouvertes à l'art contemporain parce que le mot est même pas encore forgé. Entre 69 et 76, il connaît vraiment une carrière assez ascensionnelle et qui fait sensation, qui fait provocation. On parle de ces événements, des événements qu'il a suscité, qui fait peur parce qu'il manipule la mort, l'État, la guillotine, le sang, le corps, etc. Ce sont des, moi je me souviens que des grands conservateurs émérites de ce pays ont toujours refusé de s'intéresser véritablement à Journiac par dégoût du sang, simplement. Ce sont des années un peu douloureuses. Bon, on est juste avant que le sida soit nommé, reconnu, déclaré, qui a quand même décimé la plupart de ses relations, de ses proches, de ses amis, ses amants, etc. Mais aussi, c'est l'année du triomphe du libéralisme. C'est-à-dire que ce qui était un milieu de l'art, où se discutait encore, j'allais dire, entre artistes, entre spécialistes, des questions véritablement de l'avenir de l'art, ça devient un marché. Et Journiac est un des premiers, enfin en tout cas, bon, sa situation française qui est devenue un peu périphérique, la France est devenue un pays un peu périphérique sur la scène de l'art contemporain dans ces années, à la fin de ces années 70, et lui-même est en refus vis-à-vis de ce qu'on peut effectivement considéré comme une, pas une trahison, mais en tout cas une régression où on va revenir à l'objet d'art toc d'autrefois, c'est-à-dire avec sa valeur, et en tout cas indexé à sa valeur marchande. Lui cherche une autre valeur, il veut imposer sa valeur de l'art, qui n'est pas du tout marchande, et qui est véritablement une contre-valeur et une recherche de vérité en même temps. Et donc ce sont des années difficiles, et on sent que ces rituels sont marqués aussi par plusieurs ostracisme, et ce rituel de corps exclu arrive un peu en point d'orgue de ce constat que lui-même, artiste, n'ayant, j'allais dire, que son corps et sa chair et ses os pour se manifester, est dans un état effectivement d'exclusion, de rejet. Et donc il va se marquer au fer à ce moment-là pour porter avec lui, alors c'est une marque triangulaire qui reprend la nomenclature des marques utilisées dans les camps de concentration par les nazis, hein, et le fer rouge sur sa peau qui laisse une sorte de triangle rose, puisque c'était la couleur qu'on affublait les homosexuels dans les camps. Il va donc se sentir le quelque part le porteur, en tout cas, d'une interrogation sur cette communauté des exclus qu'emblématisent les homos et que la période du sida va véritablement rendre à un état de pestiféré. Hein. On s'en souvient à peine aujourd'hui, mais c'était quand même très 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 douloureux cette période. Et porter ça comme un, je ne vais pas dire le dernier espoir de l'art, mais quelque part, si l'art, au fond, a une fonction, une vocation, et si ça sert encore à quelque chose, au lieu qu'à décorer son salon, eh ben, il l'a tenté dans les dernières années de sa vie, face au décès de ses amis, face à toutes les questions qui l'ont hanté, que ce soit l'autre, la mort, la fraternité, la vie, etc.
Je crois que c'est un artiste qui veut absolument, il veut pas rentrer dans ce système-là. C'est ça aussi qui est important de dire. C'est-à-dire qu'il est, c'est ce que disait un peu Vincent, il est un peu acculé. C'est-à-dire que, à un moment donné, il ne sait pas comment il va pouvoir transmettre cette œuvre. Et je pense qu'à un moment donné, il en voit aussi, enfin, il se sent pris dans cette nasse, un peu, il ne sait plus comment faire pour que, justement, avec son corps, il puisse dire des choses aussi politiques, aussi révoltées, etc., etc.
Philippe de Joncker, Vincent Labaume, Françoise Dauquier, merci. C'est la fin de cette émission, ou presque, puisque je vous laisse la terminer entre vous et sans moi. Et je vous laisse sur la voie, comme fatigué de Journiac, et on est en 1973, sur France Culture.
Je crois que l'ambiguïté est la seule manière de vivre. Il n'y a aucune prise de position ni d'ordre à donner. Il n'y a pas de révolution à faire. Il n'y a plus de révolution à faire. Elle est morte. Il y a peut-être simplement des révoltes. C'est beaucoup plus important. Disons que c'est beaucoup plus aussi désespérant. Je crois que c'est par lorsque j'ai donné la communion avec mon propre sang transformé en boudin, c'était deux choses. C'était d'abord, premièrement, tenter de rencontrer les autres dans le rituel de la messe, et aussi, enfin, un fait très simple, on consomme du sang en France, ici et maintenant, que sous forme de boudin. Donc il était logique que mon sang soit transformé en boudin. La dérision, c'est l'envers du sacré. Lorsque le sacré n'est plus atteignable, lorsqu'il disparaît, la dérision est peut-être le seul moyen d'approcher.
Bon, je ne sais pas si on a vraiment été dans la dérision.
Comme il le souhaitait.
Bah, c'est pas mal justement de ne pas être dans la dérision, parce que je veux dire, la dérision de son travail, c'est une chose, mais c'est une chose infiniment sérieuse.
Ouais.
Et je pense que quand vous en parlez, je dirais d'une façon peut-être pas scientifique, mais en tout cas en étant précis sur les dates, et je veux dire, ça remet les choses à leur juste place, il me semble.
Et c'est pour ça, je pense qu'aujourd'hui, on retrouve Journiac. Il y a, moi, plein de gens qui ont 20 ou 30 ans. C'est vraiment pour eux une découverte, et une découverte salutaire, je dirais, parce que elle donne. C'est la révolte aussi, ça fait du bien.
C'est vrai
aujourd'hui.
Qu'il y a une flambée de Journiac un peu tous les 10 ans. C'est-à-dire en 95, il est mort. Il y a eu en 2004-2005. Et puis aujourd'hui. Voilà. Alors peut-être ça va.
Espérons qu'on ne sera pas encore 15 ans.
Voilà, qu'on n'est pas reparti pour 15 ans.
Du coup, question pernicieuse, est-ce que de le maintenir dans le cadre donc très photographique de la Maison européenne de la photographie, est-ce que ça, c'est pas problématique?
Mais à la Maison européenne de la photographie, il n'y a pas que des photographies. Justement, on a voulu mettre des œuvres en trois dimensions, on a mis la messe.
Pas le contenu de l'exposition, mais le cadre.
Ça continue
de dire.
Alors justement, c'est pour ça que Bourges est complémentaire d'une certaine manière. On a voulu le transpalette, montrer une autre dynamique dans l'œuvre de Journiac, une construction, bon là qui est un peu testamentaire, son rituel.
Mais il faut pas non plus.
Mais aussi en réactivant.
Ouais.
C'est parce que Journiac, ça se réactualise. Le référendum, on avait refait l'isoloir, on a retrouvé l'urne originale du référendum de 70, qui est une très belle pièce, et qui est d'ailleurs, qui a été faite par Journiac, qui est en formica, on dirait, du design pompidolien. Et c'est assez étonnant parce que c'est, l'urne était pleine encore, donc des votes du 20 juillet 1970, et c'est en fait cette urne, quand on peut passer à côté comme un accessoire, et en fait c'est véritablement, c'est le corps électoral, et il y a quelque chose d'assez subtil. Quand on réactualise une œuvre de Journiac, les gens se sont mis à voter, etc. On a réimprimé ce qui était des bulletins de vote, oui, non, hein, ça. Et ça réincarne à nouveau, c'est-à-dire sont à chaque fois des processus d'incarnation. Les œuvres de Journiac, les actions, donc il en a incarné certaines comme les 24 heures, etc. Reste, mais un nombre incroyable de pièces de Journiac à réactualiser, à mon avis.
Et ainsi de suite, c'est vendredi prochain, même heure. Merci à Thierry Beauchamp pour la préparation, à Jean-Guilain Mèche pour la technique et à François Connac pour la réalisation. Merci à Philippe de Jonquière, Vincent Labaume, Françoise Docquier. Vous trouverez toutes leurs actualités sur le site de l'émission, à réécouter, podcaster et partager sur franceculture.fr. Mais tout de suite, c'est l'heure de l'alchimique Nicolas Martin pour sa méthode scientifique.